Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous. Les chemins de la connaissance, cette semaine, le monde amérindien. Aujourd'hui, la conquête du désert avec Pierre Calfon, écrivain et diplomate. Une émission à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui même du troisième salon du livre d'Amérique latine. Pierre Calfon, bonjour.
Bonjour.
Je l'ai dit, vous êtes un spécialiste, vous êtes écrivain et journaliste, diplomate, vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine, vous avez été en poste pendant de nombreuses années, vous êtes notamment l'auteur d'une biographie de référence, celle du médecin argentin, mieux connu sous le nom d'Ernesto Che Guevara. Dans votre dernier livre intitulé « Pampa », vous revenez sur l'histoire authentique d'un jeune, authentique et extraordinaire, d'un jeune Parisien dénommé Auguste Guinard, venu chercher fortune en Argentine dans les années 1850, capturé par les Indiens et qui va se retrouver leur esclave, vendu de tribu en tribu et qui parviendra à s'enfuir après 3 ans de captivité. Une aventure extraordinaire, je le disais, que cet homme a raconté lui-même dans un récit qui avait notamment inspiré Jules Verne avant vous.
Oui.
Alors, vous avez donc emboîté le pas à ce témoignage très, très fort et vous racontez cette histoire, Pierre Calfon, en mettant l'accent sur la tension entre barbarie et civilisation.
Oui, tout à fait, parce qu'il me semble que... Enfin, ce que j'ai écrit est un roman d'aventure, c'est un roman historique, c'est un roman qui peut avoir des allures de western argentin, tout ce qu'on voudra, mais... j'avais en tête un classique de la littérature argentine dû à Sarmiento, qui est un écrivain qui ensuite est devenu président de la République argentine d'ailleurs. Et ce classique s'appelle Facundo, Civilisation et Barbarie. Et ce binôme de civilisation et barbarie m'a toujours hanté en quelque sorte, en tout cas interrogé, comme on dit, interpellé, pour ne pas employer la tarte à la crème du mot interpellé. Parce que il y a dans l'histoire de Guinard, et je crois dans
Auguste l'histoire de Guinard, donc ce jeune homme venu de Paris pour tenter fortune.
Exactement. Dans l'histoire de ce garçon qui arrive à 24 ans à Buenos Aires, persuadé qu'il va faire l'Amérique, entre guillemets, comme on dit, hacerse la América, il y a tout le creuset de cette problématique. Est-ce que à l'intérieur de chaque civilisé, il n'y a pas une part de barbarie? Est-ce que chez ce qu'on appelle les barbares, il n'y a pas au contraire des germes de civilisation? Et l'antinomie, le binôme antagonique posé par Sarmiento s'effondre dans une certaine mesure parce que rien n'est jamais tranché d'une manière définitive entre le blanc et le noir. Bien sûr, il s'agit d'un roman. Bien sûr, c'est un roman que j'ai essayé de transformer en ce que les Anglais appellent en page-turner, c'est-à-dire j'ai eu quelques réactions de lecteurs déjà qui me disent « j'avais constamment l'index sur la page suivante pour savoir ce qui allait se passer, etc. » Mais il y a en toile de fond cette histoire plus profonde, cette réflexion sur la civilisation et la barbarie. Et au-delà, peut-être que si j'ai le temps, je vous en reparlerai, j'en parlerai à nouveau, le problème de l'identité argentine.
Oui, qui est complexe, composite, pleine de silence également, à l'image de ce désert dont la conquête sert un peu de toile de fond. C'est la grande opération donc, qu'on a appelée la conquête du désert dans les années 1876 et suivantes. La conquête du désert, donc un désert qui était largement habité.
Voilà, le désert n'était pas si désert que ça, mais c'est vrai que...
C'est la pampa, hein, le désert.
Il faut expliquer ce que c'est que la pampa. Vous savez, j'ai fait un micro-trottoir à l'époque où j'écrivais ce roman en interrogeant à droite, à gauche, dans un restaurant. Mademoiselle ou monsieur, si je prononce le mot pampa, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je vous assure que 2 Français sur 3 ignorent ce que c'est que la pampa et sont bien incapables de la situer sur la carte.
C'est un mot d'origine indienne.
C'est un mot d'origine quechua, ça veut dire espace plat, tout simplement. Cet espace plat pouvant être à 3000 mètres d'altitude ou à 0 mètre, comme c'est le cas pour la pampa, mais c'est un espace plat. Et cet espace plat se trouve à voir en Argentine la dimension de la France. Aussi vaste que la France. C'est 500 000 mètres carrés, kilomètres carrés, avec des dénivellations qui varient de 0,10 m à 1 mètre ou 2 mètres. Et très importante d'ailleurs ces dénivellations parce que lorsqu'il pleut, et il pleut souvent, il se forme des lagunes, l'eau se perd en faute de pente. Il est très important de se rendre compte que cet énorme espace, cette solitude, ce désert, parce que la population, il y en avait, mais elle était clairsemée.
Très disséminée. Très clairsemée, oui.
C'est quelque chose d'extrêmement angoissant au début. Moi-même, je vous assure, quand je suis arrivé en Argentine, il y a de longues années, lorsque j'allais faire passer des examens, j'étais à l'époque directeur de l'Alliance française en Argentine, je faisais passer des examens dans la région de Rosario ou de Mar del Plata ou de Mendoza, mais surtout autour de Rosario, dans la Pampa. Au début, j'étais étreint d'une énorme anxiété devant ce no man's land total.
Vous employez total. L'expression très suggestive, Pierre Calfon, de vertige horizontal. Alors ça exprime aussi donc cette angoisse dont vous venez de parler, mais également l'espèce d'attrait très fort que ce territoire a exercé sur à la fois ses occupants ancestraux, les Indiens, mais également sur les colons argentins.
Ah, tout à fait. Je précise pour rendre à César, la formule vertige horizontal a été utilisée pour la première fois par Drieux La Rochelle, qui est allé en Argentine avant la guerre et qui a parlé de vertige horizontal. J'ai trouvé cette formule tout à fait juste parce que. Mais en même temps, une fois qu'on a goûté à ce vertige, à cet espace, on ne peut plus s'en guérir pratiquement. Je viens de retourner en Argentine. Là, il y a un mois, j'étais encore en train de zigzaguer à travers la Pampa. Et quelle délice, quelle extraordinaire sensation de liberté, de bonheur on a devant un tel espace. On se sent à la fois petite poussière ridicule et dérisoire et en même temps maître du monde.
Pierre Calfon, je vous propose de retrouver votre héros, en somme Auguste Guinart. Oui. Il s'agit des premières pages de votre livre, mais en fait c'est la fin de l'histoire d'une certaine manière.
C'est la fin de la première partie de l'histoire, car voilà. L'histoire va bien au-delà. Le roman commence à partir, vraiment la fiction véritable commence à partir du moment où ce jeune Parisien, après ses 3 ans de captivité épouvantable, arrive à s'enfuir.
Voilà.
Il galopait dans la nuit, la peur au ventre. Avant tout, mettre la plus grande distance entre lui et eux. Entraînant 2 autres chevaux dans sa fuite insensée, c'est à peine s'il devinait son chemin. Au matin, cependant, la prudence l'emporta. Il connaissait l'acuité du regard des Indiens de Calfucura. Dans cette pampa sans relief, à l'horizon infini, le moindre soupçon d'un nuage de poussière l'aurait dénoncé. Il mit pied à terre, laissa paître les 3 bêtes, assuré qu'elles ne s'éloigneraient pas. Toute la journée, il resta terré, minuscule, écoutant la houle du vent, ne dormant que d'un œil, toujours aux aguets, l'oreille collée au sol. Au cours de ces 3 années de captivité, vendu de tribu en tribu, maltraité par les uns et les autres, 11 fois, il avait tenté de fuir. 11 fois, il avait été rattrapé, battu, humilié, supplicié comme un chien galeux, laissé pour mort. Mais il avait conservé la rage de survivre. Cette fois, il avait beau avoir plus de 2 jours d'avance sur ses poursuivants avant qu'ils ne sortent de leur ébriété, il n'en poussait pas moins sa monture sans répit. Il fallait à tout prix que cette tentative fût la bonne. Autrement, il le savait, le châtiment serait sans merci.
Voilà donc Pierre Calfon, un extrait de votre livre Pampa, donc qui raconte le dénouement heureux de cette histoire après 3 ans de captivité dans des conditions terrifiante, on peut le dire, puisque cet homme habitué, à la vie confortable et moderne parisienne, puis de Buenos Aires, va affronter donc et l'aventure de la Pampa et cette situation très difficile d'esclave, où il est notamment pendant très longtemps, alors qu'il fait des températures, notamment en Patagonie, hein, puisque c'est là qu'il va être capturé, des températures très, très froides. Il est nu.
Il est nu. Il a été, dès qu'il a été capturé, il a été dépouillé de ses vêtements et il était blessé. À ce moment-là, on l'a attaché sur un cheval et on l'a fait galoper vers la Patagonie parce que les Indiens qu'il avait capturés venaient de Patagonie. Peu à peu, il a été obligé de s'habituer à ces nouvelles conditions. Mais justement, et on revient encore à civilisation et barbarie, pour se civiliser, toujours entre guillemets, la barbarie, c'est d'être nu. La barbarie, c'est de manger de la viande crue, qu'il faut parfois qu'il dispute aux chiens. C'est d'essayer d'avoir chaud. On le laisse utiliser de la graisse de phoque ou de la graisse de cheval qui pue, mais qui le protège du froid malgré tout. Et pendant 3 ans, il va être nu. C'est quelque chose je crois que dans un certain type de régime dictatorial et de terreur, on laissait aussi les prisonniers nus. Cette nudité va s'accompagner d'un bouleversement total de tout ce qu'il a appris, de toutes les valeurs. Il va se rendre compte que les références habituel ne joue plus. Et peu à peu, vendu de tribu en tribu, son sort va subitement s'améliorer quelque peu à partir du moment où on se rend compte qu'il sait lire et écrire. Un jour, on le voit avec un morceau de journal qui était ramené d'une expédition de pillage des Indiens et lisant ce. Alors, du coup, il devient. On le bombarde scribe du cacique. Le cacique, c'est le chef de la tribu. Il devient finalement le scribe du cacique des caciques, le cacique général de Calfulcura. Et à partir de ce moment-là, son sort s'améliore et il arrive à s'enfuir. Là termine, si vous voulez, le récit proprement ethnologique qui est quand même du roman.
Voilà.
Du roman tout à fait passionnant. Mais là commence ce que moi j'ai imaginé comme suite et qui est l'essentiel du roman, c'est-à-dire les amours plus ou moins torrides que ce garçon, après 3 ans d'abstinence, de continence, a avec l'une des très nombreuses filles, des très nombreuses épouses du grand cacique Calfulcura. Et lorsqu'il s'enfuit, il ignore que la jeune Aïlen, qui a 15 ans, c'est pas si jeune, ne croyez pas, Louis XVI a reçu Marie-Antoinette quand elle avait 15 ans aussi.
C'est une pensée d'ailleurs que vous lui attribuez dans votre livre.
Absolument, oui. c'est pour bien montrer qu'on a l'impression que c'est... Non, pas du tout, c'est les demoiselles de 15 ans sont toujours très appétissantes pour les hommes de 25 ou 30 ans ou 40 ans, peu importe. En tout cas, la vraie histoire, le vrai roman, le vrai western consiste dans l'histoire du fils
de cet homme et de cette indienne
qui va vivre 10 ans parmi les Indiens jusqu'au moment où il va être adopté par un colonel qui ensuite va devenir général argentin et lequel colonel va l'envoyer dans un collège militaire à Buenos Aires qui venait d'être créé justement par Monsieur Sarmiento et ce garçon d'origine indienne, va devenir un sous-lieutenant de l'armée argentine envoyé à la frontière, voilà. Obligé de se battre contre ses frères.
Dans le cadre d'ailleurs de cette conquête du désert, cette série d'opérations militaires qui était destinée à repousser justement cette frontière dont vous parlez, qui était en fait une frontière intérieure.
Absolument, qui oui. Pas du tout une frontière classique.
Voilà, c'est entre le monde civilisé, on va dire, et le territoire, les vastes territoires des Indiens.
Vous voulez que j'ajoute un petit mot d'explication de type marxiste? C'est un roman, hein, c'est pas du tout un essai, ni une étude de sociologie, ni une étude d'analyse politique. Mais malgré tout, il faut se rendre compte que le massacre des Indiens est dû à deux inventions techniques du 19e siècle. Un, l'invention du fil de fer, curieusement. Deux, l'invention du froid artificiel.
Oui, il y a aussi les armes à feu qui se perfectionnent.
Ensuite, tout ça est aidé par l'invention du fusil Remington. Remington n'a pas fait que des machines à écrire. Il a commencé par faire des armes aux États-Unis. Et le fusil Remington qui a été utilisé pendant la guerre de sécession. Et le fil de fer.
Le fil de fer a coupé.
Le fil de fer permet d'organiser des croisements entre les taureaux et les vaches. Alors qu'auparavant, c'était à la buena de Dios, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas moyen de...
Dans la vaste pampa.
Dans la vaste pampa. On faisait des rodéos pour les ramasser de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Et puis, à partir du moment où on peut commencer à fabriquer de la viande, le problème se pose de l'exporter. Et quand Charles Tellier, le Français, invente le froid artificiel en utilisant l'ammoniac, et qu'il arrive en 1876... avec un navire qui s'appelle précisément le frigorifique, et que les gros propriétaires terriens s'aperçoivent qu'ils peuvent exporter cette viande, alors à ce moment-là, ils ont besoin de terre. La conquête du désert s'explique par la soif de terre qu'ont provoqué ces deux inventions. Et alors, on réduit les Indiens? Comment on peut les massacrer? Eh bien, on utilise une arme que eux ne connaissent pas, le fusil à longue portée, le fusil Remington pouvait tirer à 1000, 1500 mètres. Et alors là, à ce moment-là, ça a été la fin des Indiens.
Oui, mais ils se rechargent par la culasse.
Ils se rechargent par la culasse et non plus par le canon.
Beaucoup plus vite que les anciens chassepots. Alors, cette opération, ensemble d'opérations militaires baptisées donc Conquête du désert dans les années 1876 et suivantes, elle fait suite aussi à une vaste offensive générale des Indiens qui donc se traduit par toute une série de razzias dont les Indiens étaient coutumiers et qu'ils appelaient les malheurs.
Les malones, oui, ouais. Bien sûr. Los malones.
Razzia,
oui.
Donc destinée à piller, on peut dire,
les fermes. Historiquement, ça s'est passé comme ça. Rosas, qui était un dictateur argentin qui a sévi pendant une trentaine d'années, au début du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, jusqu'en 1852, avait établi un traité en disant « Bon, les Indiens, vous restez dans votre coin ». Et on vous donne, vous venez pas nous piller, on vous donne du bétail, etc., de quoi vivre et même vivre correctement. Ok. Et de l'alcool.
Oui.
Et de l'alcool. Les Indiens étaient fous de cette aguardiente, de cette eau de vie que les Argentins fabriquaient. Mais les promesses n'ont pas toujours été tenues. Et lorsque les promesses n'étaient pas tenues par les cristianos, parce qu'il y avait deux camps, los cristianos, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas indien, et los indios, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas cristianos. Bon. Lorsque les promesses n'étaient pas tenues, les Indiens allaient se servir eux-mêmes. Et leurs seules armes, c'était la lance, le couteau et le cheval. Le cheval qui a prolongé leur destin d'homme libre pendant trois siècles. Ils ignoraient. Le cheval n'existait pas en Amérique latine. Il a existé il y a des millions d'années, mais il avait disparu. Et ce sont les Espagnols qui ont ramené les chevaux et les bœufs d'Espagne. Ces chevaux ont commencé à se répandre dans la pampa, à se reproduire... d'une manière complètement sauvage. Et les Indiens, qui au début en avaient très peur, lorsqu'ils ont commencé à enfourcher pour la première fois un cheval, se sont rendus compte qu'ils avaient une mobilité extraordinaire et en plus qu'ils pouvaient le manger et que c'était bon à manger. Donc ça a vraiment changé leur destin. Je vous dis, grâce à ça, ils sont restés libres pendant plus de 3 siècles.
Alors, vous évoquiez, Pierre Calfon, aussi au titre des causes de cette guerre d'extermination menée contre les Indiens par le gouvernement argentin à cette époque-là. Je vous évoquais donc cette ouverture vers l'exportation du cheptel argentin qui était considérable. Et alors, du coup, effectivement, il a fallu, vous disiez, récupérer des territoires et puis aussi mettre fin à ces razzias dévastatrices au cours desquelles donc des milliers de têtes de bétail étaient
volées, pillées, saccagées, voilà. Enfin saccagées non pas, mais enfin mises à l'engorde, c'est-à-dire mises dans des pâturages où on les faisait grossir, et on les faisait s'engraisser un peu, et ensuite ils les vendaient aux Chiliens. Aux propriétaires chiliens. Lesquels propriétaires chiliens, mosquita muerta, comme on dit, ne faisaient pas trop de détails pour savoir d'où venait ce bétail. Pas mal de fortunes de gros propriétaires terriens chiliens sont venus de ces troupeaux.
Alors, vous parliez aussi de cette dialectique entre civilisation et barbarie. Elle s'est illustrée aussi, donc avant cette guerre de conquête, elle s'est illustrée par des relations qui étaient souvent des relations amicales entre les communautés indiennes et les colons...
Oui, les cristianos. Évidemment, parce que de toute façon, on ne peut pas éternellement faire la guerre. Surtout que sur ces espaces immenses, la population était ridiculement petite. Donc, l'Argentine n'avait à ce moment-là qu'un million d'habitants, à peu près, ou un million et demi. Donc, et il fallait bien faire du commerce. On n'était pas toujours en guerre. Donc, il y avait... Lorsque le Mancilla, le colonel dont je parlais, qui va adopter le fils de Guinard, arrive, il est étonné du degré de dévolution des Indiens qui est plus élevé, constate-t-il, que celui de beaucoup de gauchos de la Pampa à la même époque.
Les gauchos, donc les éleveurs et gardiens de troupeaux légendaires de ce vaste territoire, Pierre Calfon. Alors, je vous propose de retrouver l'introduction que Monsieur Duviol donc a consacrée à ce témoignage extraordinaire. Et puis on parle, après, de cette aventure d'Auguste Guinard.
À l'exception des Guarani, aucune tribu indienne de la partie méridionale de l'Amérique du Sud n'avait accepté la domination espagnole, pas plus que la vie en réduction imposée par les évangélisateurs jésuites, ce qui explique les rapports extrêmement agressifs qu'ils entretenaient avec les Européens, qu'ils désignaient du nom de Winnicae. Constatant l'échec de ces tentatives obstinées d'évangélisation, un jésuite espagnol remarquait que la haine qu'il nourrissait à l'égard des Espagnols les poussait à montrer de l'aversion pour les chrétiens en général. Cette haine remontait au premier temps de la conquête. Elle poussait les Indiens à faire des descentes armées sur les bourgades de la frontière pour se procurer du bétail. Ils tuaient alors les hommes et enlevaient les femmes. C'est ainsi que s'était imposée cette image des barbares exerçant leur cruauté sur les civilisés. Elle justifiera leur élimination. Tout comme les Indiens des plaines de l'Amérique septentrionale, dont les modes d'existence ressemblaient beaucoup à ceux des Indiens Pampa ou Patagons, ils ont été condamnés par les Européens et taxés d'une méchanceté naturelle proportionnelle à leur degré d'inaptitude au servage.
Voilà, on peut rappeler, Pierre Calfon, que ce témoignage d'Auguste Guinard est un document ethnographique exceptionnel.
Exceptionnel, parce que c'était la première fois qu'un Français, et même un Européen, vivait ces conditions-là. Il y a eu quelques explorateurs en Patagonie, un nommé Munster, etc. Mais c'est la première fois qu'on avait la possibilité d'avoir le témoignage vécu d'un Français qui avait complètement partagé la vie de ces Indiens.
Ces 3 années en immersion totale.
En immersion totale et qui avait réussi à revenir. Et au début, d'ailleurs, il est revenu persuadé qu'il était un fracassado, qu'il avait échoué dans sa tentative de faire fortune. Et il ne s'est pas rendu compte, le vrai Auguste Guinard, que son aventure était extraordinaire. La Société de géographie a commencé à s'intéresser à son histoire. Elle lui a demandé d'aller faire un petit exposé. Ensuite, la revue Le Tour du Monde, qui est une revue merveilleuse qui existait à l'époque, où on découvrait encore des terres incognitées, lui a demandé d'écrire un article. Et ensuite, il a développé ça en un ouvrage qui s'est appelé « Trois ans d'esclavage chez les Indiens Patagons ».
On peut dire, Pierre Calfon, qu'il a pratiqué une version extrême de ce que les ethnologues appellent l'observation participante.
Ah ben là, oui. Alors là, c'est vrai.
Ouais. Alors, notamment, on peut tous les détailler. Il est donc capturé par des Indiens Poyuches, qui sont des Indiens de Patagonie.
Oui, et lesquels, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il ne s'est pas monté à cheval, s'empressent de s'en débarrasser et le vendent contre une vache et un poncho à une autre tribu. Et là, il s'aperçoit qu'il est obligé de faire un triple apprentissage indispensable s'il ne veut pas être tué. Il faut qu'il apprenne à monter à cheval, très vite, qu'il apprenne à parler le langage des Mapuches, parce que le langage des Indiens, enfin, c'était des Mapuches, essentiellement, ils venaient du côté...
Des Andes.
Des Andes, du côté chilien de la cordillère des Andes.
Les Mapuches, les fils de la terre.
Les fils de la terre. Mapu, ça veut dire, en Mapudungun, la terre. Et Che, homme. Homme de la terre, fils de la terre, n'est-ce pas?
D'où le surnom de Guevara, Ernesto.
Absolument, absolument. Oui. Et d'où l'interjection, parce que pourquoi on appelait Ernesto Guevara El Che? Parce que tout le langage des gens originaires du Rio de la Plata, c'est-à-dire Buenos Aires, Montevideo, etc., cet énorme estuaire qui est formé par les deux énormes fleuves, le Paraná et le Rio Uruguay, qui descendent dans l'Atlantique, tout le langage des gens qui habitent dans cette région-là est émaillé d'une interjection qui est signe de tutoiement un peu familier, qui s'appelle Che. Che, n'est-ce pas? Ça, c'est le « et », »,« dis donc », »,« toi », voilà, « écoute-moi », voilà.
Voilà. Alors, les Mapuches. Vous parliez de la langue, là, en l'occurrence.
Oui, je parle de la langue. Langue
véhiculaire, oui.
Les...
Utilisée par ces Indiens, Puelches.
Puelches. Alors... Il passe des Poyuches aux Puelches, des Puelches aux Tehuelches, etc. Et il revient sur les territoires pampéens. Et c'est là qu'il va devenir le scribe du grand cacique Calfulcura. Parce qu'en fait, la plupart du temps, il n'a pas été esclave chez les Patagons, mais esclave chez les Indiens pampas.
C'est ça.
C'est le titre. Je subodore que l'éditeur a préféré le mot « esclave chez les Patagons » parce que ça fait plus exotique, ça fait plus peut-être...
Mais il n'y a passé que relativement peu de temps. Territoire qui est au sud, territoire légendaire également, qui est au sud de la Pampa.
Au sud de la Pampa, oui, qui va depuis la Pampa jusqu'à la Terre de Feu. Heureusement, je mets une carte quand même pour permettre au lecteur de se situer un peu.
Alors la connaissance de cette langue des Indiens chez lesquels il se trouvait va lui permettre d'étudier leur société.
Et de
toutes ces descriptions, il donnera donc un récit très détaillé.
Dans son livre. Il y a quelques trous noirs dans son récit. J'aurais voulu. C'est dommage. Vous savez qu'ensuite, je suis allé à la Bibliothèque nationale pour essayer de savoir ce qui était devenu, s'il avait écrit autre chose, etc. Son histoire se perd dans un mystère total. On pense qu'il a dû se suicider en se jetant dans la Seine. Autour de 1880, par là, 1885.
Donc peu de temps après son aventure, en fait.
Non, tout de même une vingtaine d'années après, parce qu'au moment où il a eu le temps de se marier, d'avoir une fille, et c'est au moment du mariage de sa fille qu'on le déclare absent ou décédé dans les actes du mariage de sa fille.
Voilà. Donc il décrit avec beaucoup de détails cette société indienne, notamment la religion de ces Indiens, leur mode de vie.
Les Indiens à l'époque croyaient à deux divinités, à deux espèces de divinités qui étaient la divinité du bien et celle du mal. Et ils étaient très superstitieux. Et ils imaginaient que si quelqu'un mourait, c'était à la suite de maléfices provoqués par la divinité du mal qu'on appelait le Walichu. À l'époque. Il y a une quantité incroyable d'informations dans le récit de Guinard qui sont savoureuses et passionnantes.
Auxquelles donc vous avez donné une suite dans ce roman, auquel je renvoie donc les auditeurs. Ce roman intitulé Pampa, publié aux éditions du Seuil. Je vous remercie, Pierre Calfon. Je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste et diplomate. C'était le quatrième volet de cette série consacrée au monde amérindien, à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui même du troisième salon du livre d'Amérique latine à la Maison de l'Amérique latine. Une série que nous retrouverons demain avec Afranio Garcia. Texte lu par Catherine Soulard, à la console aujourd'hui Jacques Vincent. Les chemins de la connaissance, Avril Ventura, Meryl Moneghetti, Guy Peramor, Jacques Munier. Et à 11h30, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de retrouver À Voix Nues.